FM. Les grands débats, Nicolas Dose.
Les trois jours qui ont tué le secret bancaire en Europe sous la pression du G20, les paradis fiscaux rentrent dans le rang les uns après les autres. Mais s'agit-il véritablement du bon combat ? N'est-on pas en train de fabriquer l'opinion, de fabriquer pour l'opinion un coupable facile à comprendre ? Quelle est la responsabilité réelle aujourd'hui du secret bancaire et des paradis fiscaux dans la crise que nous vivons ? Peut-être qu'avant d'attaquer les paradis fiscaux, certains États feraient mieux d'engager une réforme de leur propre fiscalité. Ça se passait ce week-end, les ministres des Finances du G20 étaient réunis Aurélie Boris au Royaume-Uni. Il s'agit de trouver une position commune, notamment sur les paradis fiscaux, mais sur des quantités de sujets en prévision du G20.
Oui Nicolas, les 20 sont désormais d'accord sur une chose, le principe d'une liste noire des paradis fiscaux, c'est territoire non coopératif selon la terminologie de l'OCDE qui les classe. Une liste noire qui pourrait comprendre la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, Andorre et Monaco. Actuellement, la liste noire de l'OCDE qui date de 2005 ne comporte que trois noms, Andorre, le Liechtenstein et Monaco. Les pays concernés ont donc pris les devants. Après la Belgique qui renonce purement et simplement à son secret bancaire, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg vont assouplir le leur. Les autorités acceptent de lever ce secret dans certains cas lorsqu'il y a soupçon de fraude fiscale. Une concession historique, Nicolas.
Alors attention, hein, et on verra, ce sera l'une des premières questions de ce débat. On ne parle pas de levée totale du secret bancaire. Les efforts bien réels, selon l'OCDE, attisent malgré tout toujours les débats.
Oui, notamment en ce qui concerne la Suisse, en ligne de mire de la France et de l'Allemagne. C'est à leur demande que l'OCDE a communiqué une liste préparatoire au G20 Finance de ce week-end. Nicolas Sarkozy a par ailleurs salué vendredi la fermeté et le volontarisme du couple franco-allemand dans la bataille. La France et l'Allemagne sont particulièrement concernées par le sujet. Elles perdraient entre 20 et 50 milliards d'euros de recettes fiscales par an à cause donc de l'évasion fiscale. Après les déclarations de principe de ce week-end, reste à statuer sur le sort des paradis fiscaux. Prochain round le 2 avril à Londres avec le G20 au complet.
Le G20 au complet à Londres le 2 avril. D'ailleurs, le grand journal de Fabrice Lundy sera en direct de la capitale britannique ce jour-là. On va en parler aujourd'hui avec Christian Chavagneux. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christian, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Alternatives économiques, auteur des Paradis fiscaux aux éditions La Découverte. Enfin, le titre du livre, ce sont Les Paradis fiscaux, exactement. On vous voit partout hein, sur ce sujet des paradis fiscaux. Vous êtes devenu le spécialiste français de la question. Et alors, en l'occurrence, Alternatives économiques a sorti une étude, une enquête choc. Elle m'arrive fin de semaine dernière sur la boîte mail à BFM et je vois liste de l'ensemble des 40 valeurs du CAC avec pour chacune le nombre de filiales offshore et les pays dans lesquels sont implantées ces filiales offshore. Au total, l'enquête recense près de 1500 filiales offshore pour nos 40 valeurs et encore, certaines entreprises n'ont pas été traitées par l'enquête car il n'y avait pas d'informations les concernant. Il y en a 4, je crois, Vinci, Air France KLM, Total et puis ST Micro. Voilà, si mon souvenir est bon. À l'arrivée, 361 entités pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale réunies et 7 territoires qui concentrent 90% de la présence française, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, Singapour, l'Irlande et Hong Kong. On va en parler, hein, Christian, de cette étude. Avec nous aussi, Guillaume Vuillemet, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut économique Molinari. Alors, Christian Chavagneux, d'abord, de quoi parlons-nous depuis 3-4 jours ? De la fin du secret bancaire, je vous donne les espèces de possibilités parce que d'un pays à l'autre, c'est pas forcément la même chose. De la fin du secret bancaire, visiblement pas tout à fait. D'une collaboration en cas de procédure pénale ou également hors procédure pénale. Donc faut-il qu'il y ait procédure pénale pour qu'il y ait collaboration ou tous ces pays sont-ils d'accord pour collaborer même hors procédure pénale? Et est-ce qu'on parle de levée du secret bancaire en cas de fraude et d'évasion fiscale ou seulement en cas de fraude fiscale?
Non, c'est une brèche dans le secret bancaire, notamment dans le secret bancaire suisse. Jusqu'à présent, lorsque vous étiez en Suisse, la Suisse acceptait de collaborer en cas de fraude fiscale.
De fraude, c'est ce qu'a fait UBS pour les fameux 250 premiers noms de détenteurs américains.
Voilà. Vous faites un faux, à ce moment-là, les autorités suisses acceptent de collaborer. Si c'est de l'évasion fiscale, si vous tournez un petit peu autour de la loi, jusqu'à présent, les Suisses disaient c'est un délit, mais c'est un délit en Suisse de donner les noms des gens qui font de l'évasion fiscale.
1934, création du secret bancaire pour protéger les avoirs des Juifs contre les nazis à l'époque.
C'est faux, s'il vous plaît, c'est entièrement faux.
D'accord, c'est un argument qui est mis en avant par ceux qui défendent les paradis fiscaux.
C'est complètement faux.
À l'époque, on préserve les patrimoines d'une catégorie de gens traqués par les nazis en créant le secret bancaire en Suisse. C'est faux.
C'est une légende. Les historiens suisses l'ont montré, qui est né en 1966. Parce qu'à l'époque, déjà, le Congrès américain met la pression sur les banquiers suisses. À l'époque, le Congrès américain lutte contre l'argent de la mafia. Et il pense qu'une partie de l'argent de la mafia est en Suisse, donc il met la pression question, c'est les Suisses qui disent « Mais vous savez, nous, on l'a inventé pour protéger les avoirs des Juifs. » Vous regardez.
Donc c'est un argument fallacieux utilisé par la Suisse pour le justifier.
Complètement, qui est né en 66.
D'accord, Guillaume Vuillemet, votre avis là-dessus, parce que ça a été un des arguments qu'on a mis en avant pour côté, pour le
Je peux vous donner la vraie histoire, si vous voulez.
Je ne sais pas si on aura le temps, mais allez-y, Guillaume.
Il y a quand même eu, en 34 et avant, des pressions nazies sur la Suisse. Hitler, en arrivant au pouvoir, fait pression sur les Allemands qui ont des comptes en Suisse, juifs notamment, pour récupérer leurs avoirs. En 34, il y a trois Allemands juifs exécutés par l'Allemagne nazie parce qu'ils avaient des comptes en Suisse. Donc il y a effectivement une pression qui n'est pas le seul facteur. Il y a plusieurs facteurs.
Il y a eu plusieurs raisons.
Mais c'est un facteur.
Bon, effectivement, c'est un facteur qui est très sentimental aujourd'hui.
Donc le facteur simple, c'est que la loi bancaire suisse qui comporte le secret bancaire, elle est écrite en 32.
Bon,
donc, avant l'arrivée des juifs au pouvoir. Des nazis au pouvoir. Pardon.
Oui, en 32, donc comme c'est 33, bah d'accord. Christian, ce qui s'est passé donc là, c'est fraude, évasion, même combat, ou alors que fraude ou...
La Suisse maintenant accepte de contribuer à ce qu'on appelle des procédures pénales, c'est-à-dire un juge qui vient demander de l'information, et à des procédures administratives, le fisc français, d'accord, qui demande des informations en cas de fraude fiscale, ce qu'elle faisait déjà, et maintenant, c'est ça la nouveauté, en cas d'évasion fiscale.
C'est le cas pour tous les autres, pour Autriche, Luxembourg, Liechtenstein, Andorre, Belgique.
Une grande partie de ces pays ont copié la loi bancaire suisse et le secret bancaire suisse de 34 juste après, hein, c'est vraiment ça suit 34, et donc il faudra regarder juridiquement et précisément, parce qu'on est sur un territoire juridique extrêmement pointilleux, il faudra regarder précisément, mais a priori, oui, on est sur la même ligne.
Guillaume Vuillemet, est-ce que vous faites le distinguo entre secret bancaire et paradis fiscal? On est d'accord pour dire que le secret bancaire est une est un aspect d'un paradis fiscal, parce qu'on a on mélange un peu les deux, hein.
Alors,
dans la presse, pour pas répéter secret bancaire dans la phrase, vous avez marqué paradis fiscal après pour éviter la répétition. On parle pas vraiment de la même chose.
Généralement, oui, il y a une distinction à faire, c'est entre la partie purement fiscale ou bancaire des paradis fiscaux, mais il y a aussi souvent une forte dimension juridique dans ces paradis fiscaux. Le fait que, par exemple, le droit des faillites soit beaucoup moins contraignant, le droit de l'information vis-à-vis des investisseurs soit quasiment inexistant parfois. Et donc, quand on débat sur ce sujet-là, il faut toujours distinguer les aspects purement fiscaux ou bancaires des aspects plus juridiques. Par exemple, la Suisse est complètement différente des îles Caïmans. La Suisse a un intérêt d'un point de vue bancaire, n'a pas forcément un intérêt aussi grand d'un point de vue juridique, intérêt qu'aura par exemple les îles Caïmans. Et d'accord, où beaucoup d'entreprises pourront être domiciliées, ou de hedge fund par exemple.
Les îles Caïmans ne sont pas citées dans les territoires qui concentrent la plupart des présences françaises dans le cadre de l'alternative.
Pas de la France. Mais il y a par exemple des fonds d'investissement qui y sont.
Vous êtes d'accord avec ce distinguo, Christian Chavagneux, secret bancaire, paradis fiscal, là c'était, voilà.
Oui, le secret bancaire est l'un des éléments grâce auquel les paradis fiscaux créent de l'opacité.
Le secret bancaire, a priori, c'est pas illégal.
Non, c'est même très bien. Moi, je veux pas que tout le monde sache ce qu'il y a sur mon compte en banque. Donc le principe même du secret bancaire est très bien. C'est jusqu'où est-il utilisé pour empêcher les citoyens d'un pays de payer les impôts dans leur propre pays.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vient de quasi trépasser en Europe?
Non, c'est une petite brèche.
Vous dites que la Suisse est capable, enquête administrative, enquête pénale, évasion, fraude, il y a tout.
Si vous avez les preuves que la personne considérée a peut-être commis une infraction fiscale, mais si vous voulez dire, oh là, je suis sûr qu'il y a une quinzaine de Français qui ont un compte chez vous, faites-moi voir ce qu'il y a sur leur compte, je voudrais vérifier. Et là, les Suisses disent non, vous n'aurez rien du tout.
Il faut arriver avec un argumentaire.
Avec un argumentaire.
Et on est d'accord, on traque des particuliers.
On traque des particuliers et des entreprises. On parle beaucoup de la Suisse et donc c'est les particuliers, mais les entreprises aussi sont concernées.
On va dire un mot de cette enquête. Déjà, il y a quatre noms du CAC 40. Vous dites que vous ne les traitez pas, Air France KLM, ST Micro, Total, Vinci. Il n'y a pas d'informations disponibles.
Il n'y a pas d'informations publiques. Nous, on voulait que tout le monde puisse vérifier notre étude.
Vous avez trouvé ça où?
Sur les sites internet des entreprises.
Donc, il y a une transparence totale de la plupart des entreprises sur leur présence offshore.
Sur leur présence, tout à fait, oui. Maintenant, quel chiffre d'affaires elles font dans ces territoires offshore? Comment elles contribuent? Pourquoi? Là, on n'a pas d'informations. Il faudra enquêter entreprise
par entreprise. Donc, on a le nombre de filiales.
Par zone géographique. Par pays, et voilà. Donc on peut faire le distinguo.
Alors, Guillaume Vuillemet, si on dit, vous imaginez, là, à la radio, Alternative économique révèle que 1500 filiales offshore du CAC 40 sont actuellement en activité, le réflexe de n'importe qui entend ça, c'est « Oh, quel scandale !» Est-ce que le réflexe qui va dire « Oh, il y en a 1500 !» Est-ce qu'on a raison ou tort de dire « Quel scandale ?» Parce que c'est transparent et que ça ne semble pas finalement être illégal.
Écoutez, je pense qu'on a tort. Premièrement, parce que...
Tort de quoi? De s'insurger.
De réagir de manière émotionnelle et un peu déraisonnable. Déjà, une part de ces implantations correspondent à une activité réelle dans les pays comme la Belgique, la Suisse ou autres. Ce que l'étude du magazine précise très, très bien, je crois.
Ils sont sérieux, chef d'un TV économique.
Non, mais je sais très bien. Par ailleurs, on a souvent beaucoup d'insinuations sur les paradis fiscaux dans le discours. C'est-à-dire qu'on présuppose que parce qu'on est implanté offshore, il y a des choses à cacher. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on ne veut pas tout dévoiler qu'on a des choses suspectes à cacher. Les gens chez eux ont des rideaux, c'est pas pour autant qu'ils ont des choses à cacher dans leur salon. Vous le comprenez bien. Donc, les paradis fiscaux peuvent aussi avoir des avantages conséquents pour les entreprises dans leur répartition géographique de leurs activités. Ça peut permettre pour elles, par exemple, d'échapper à des réglementations contraignantes qui auraient un coût pour elles qui pourrait peser sur leurs bénéfices, sur leurs investissements, sur leur capacité à être pérenne. Donc il n'y a pas de scandale a priori à être implanté pour les entreprises dans les paradis fiscaux.
On marque une pause, Christian Chavagneux réagira dans un instant. On peut avoir des rideaux chez soi sans avoir quelque chose à cacher.
BFM Radio, 6 heures d'information économique non-stop. 17h-23h, le grand journal avec Fabrice Lundy. La clôture des bourses à Paris et Wall Street, l'analyse des professionnels. Économie, internationale, politique, le grand journal de BFM, l'édition du soir qui détaille tout ce qui fera les unes du lendemain. 17h-23h, le grand journal avec Fabrice Lundy sur BFM Radio, le premier quotidien économique du soir. BFM, la radio de l'écho.
Et 11h15, les marchés en direct avec David Doba.
La hausse encore toujours à Paris, plus 2,87% désormais pour le CAC. On n'est plus qu'à 17 points des 2800 points, 2783 très précisément. Le DJ Eurostock 50 également bien orienté, plus 3,07% à 2030 points. Dans l'actualité des entreprises aujourd'hui, le promoteur Orco Property Group repousse à la fin du mois la publication de ses comptes annuels. Le groupe explique tout simplement bien qu'il n'a pas pu les achever à temps avant la date initiale de publication. Et le titre a été donc suspendu à Prague aujourd'hui. Et puis, trois nouveaux candidats ont été proposés en remplacement des administrateurs sortants à la nomination du conseil d'administration d'UBS, et du moins ce qu'annonce la banque suisse ce matin. UBS qui pourrait par ailleurs licencier jusqu'à 5000 salariés selon la presse. On évoquait la banque, justement, les bancaires extrêmement bien orientés ce matin, la Bourse de Paris, Dexia, Société Générale, encore Crédit Agricole, des titres qui s'apprécient respectivement de 12%, 8,2% pour Société Générale, et le Crédit Agricole plus 5,4% à 7,75€, je rappelle le CAC, donc plus 2,8%. Coup d'œil sur l'euro qui a franchi, ça y est, la barre des 1,30€, 1,34€ face au dollar.
Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
11h16 sur la radio de l'écho, vous retrouvez la suite des grands débats.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Haro sur les paradis fiscaux à l'approche du G20, comme si le fait de mettre fin au secret bancaire allait régler tous nos problèmes. C'est un peu le sentiment qu'on a, et pourtant. Christian Chavagneux est avec nous pour en parler, rédacteur en chef adjoint à Alternatives Économiques. Ils ont sorti cette étude. Elle n'est pas sortie dans le journal, en fait, Christian, l'étude. Elle est sortie pour l'instant de manière un peu scoop.
Voilà, sur Internet. Il y aura une étude beaucoup plus complète avec d'autres données, d'autres analyses dans le prochain numéro qui sort fin mars.
Donc voilà, dans le numéro d'avril, j'imagine que Guillaume Duval ou Christian Chavagneux seront là pour nous en parler dans notre tour des hebdos du vendredi. Vous êtes l'auteur des paradis fiscaux aux éditions La Découverte. Christian, ça vous, Guillaume Vuillemet, chercheur à l'Institut économique Molinari. Qu'est-ce que vous voulez dire à Alternative Echo en sortant cette étude? Je disais, voilà, le mot offshore, il le disait assez justement, Guillaume Vuillemet, sans que les gens sachent forcément ce qu'il y a derrière, ça sonne escroquerie offshore. On pense escroc, on pense un peu truand. Qu'est-ce que vous voulez dire en sortant cette étude? Est-ce que vous jetez l'opprobre sur ces entreprises? Voilà.
Bien sûr, on est dans le domaine de l'opacité, mais il y a un grand chercheur américain qui dit en gros que par les paradis fiscaux, il y a 5% d'argent mafieux, le scandale dont vous parlez, il y a 30% d'argent de la corruption et tout le reste c'est de l'évasion et de la fraude fiscale et de la prise de risque en termes financiers. Donc il s'agit simplement de montrer que dans le climat politique actuel qui concentre une force incroyable, France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, jamais on avait eu une coordination aussi forte pour lutter contre les paradis fiscaux. Jamais dans l'histoire.
Au plus haut niveau des États, depuis 1920,
qui était la première attaque par la Société des Nations contre les paradis fiscaux, jamais on a eu une coordination aussi forte.
Première attaque SDN 1920
qui est tombée un peu parce que le délégué suisse qui a dit je suis prêt à revenir sur ce trait bancaire, mais sur ce dossier il faut se hâter avec une prudente lenteur, a-t-il dit à l'époque.
Cet auditeur, je vous laisse terminer, pipo et repipo, je vous parie le champagne que vous referez une émission sur les paradis fiscaux dans 5 ou 10 ans, vous voyez, on parlait de 1920 où on commence à s'y intéresser, il s'appelle Francis, il est entrepreneur à Nancy.
Et donc si on veut suivre le gouvernement français, allemand, américain, etc., britannique, britannique dans la lutte contre les paradis fiscaux, c'est bien de faire des listes noires, hein, de dire voilà quels sont les territoires qui peut-être nous posent des problèmes, mais aussi il faut savoir que tous les grands acteurs privés, nous on l'a fait sur le CAC 40, mais c'est vrai pour l'ensemble des multinationales, tous les grands acteurs privés sont présents. Et donc attaquer les paradis fiscaux, c'est changer les pratiques quotidiennes des banquiers et des multinationales en général. Ça va prendre un peu de temps.
Et qu'est-ce que vous voulez dire avec cette étude ? Est-ce que vous voulez que les gens aient le sentiment que nos entreprises du CAC 40 ne sont pas des bonnes entreprises civiques ?
D'une part, oui, elles ne sont pas des bonnes entreprises civiques. En 1937, le ministre des Finances, Henri Morgenthau, des États-Unis, a dit « Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Malheureusement, trop de personnes veulent la civilisation au rabais. » Il y a beaucoup de personnes aisées, de grandes entreprises en France qui veulent une France au rabais.
Étonnant comme des phrases prononcées il y a 70 ans, 80 ans.
Ça sonne très très bien aujourd'hui, ouais. Tout à fait. Et donc, il faut arriver à sortir ces multinationales des paradis fiscaux pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons d'instabilité financière. Les paradis fiscaux n'ont pas causer cette crise, mais tu es un grand facilitateur. On pourra.
Alors, je peux le prouver. Ça va être une question, bien évidemment. Deux questions très rapides encore sur cette étude qui elle concerne des grosses entreprises. On est d'accord pour dire que cette présence offshore, elle n'est pas illégale.
Non, on a tout à fait le droit, lorsqu'on est une personne aisée, lorsqu'on est une multinationale, d'aller dans un paradis fiscal, d'ouvrir un compte dans un paradis fiscal.
On a le droit de s'évader fiscalement en toute légalité.
Ah non, attendez, on a le droit d'aller à l'étranger et d'ouvrir un compte.
On va jouer sur les mots,
non.
Il y a eu le salon FISCAP à Paris récemment, BFM était partenaire, j'avais des spécialistes, des gens tout qui ont pignon sur rue, qui ont des offres, vous êtes riches, on a des solutions pour vous.
Voilà.
Savoir partir et savoir revenir.
Tant que vous gardez votre argent en Suisse ou ailleurs et que vous gagnez de l'argent là-bas et que vous le laissez là-bas, il n'y a pas de problème. Là, si vous voulez le rapatrier sans payer d'impôts, là, vous commencez à rentrer, alors soit dans l'évasion, soit dans la fraude.
On pourra en parler parce qu'il y a eu une idée, notamment Bernard Accoyer, qui proposait un système d'amnistie un peu spécial. Bon, dernière question rapide, les groupes cités ont-ils réagi ?
Non, on a simplement questionné BNP Paribas parce que c'est le leader.
Oui, il est en tête, j'ai plus le chiffre exact de BNP.
Plusieurs coups de fil, plusieurs emails, on n'a pas eu de réponse.
Bon, réaction à ce que vient de dire Christian Chavagneux, Guillaume Vuillemet.
Moi, je crois qu'on réagit énormément par rapport aux paradis fiscaux. À l'heure actuelle, ça va être un des sujets majeurs du G20.
C'est incroyable.
Du 2 avril.
Les paradis fiscaux vont être le centre du G20, on a l'impression.
Moi, je pense que c'est un bouc émissaire extrêmement facile, qu'ils n'ont ni causé ni facilité la crise, et qu'on mélange les causes et les conséquences. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des sommes immenses accumulées dans les paradis fiscaux n'est pas une cause ni de la crise ni de l'instabilité. La cause véritable de la crise, c'est la création massive de monnaie par les États, la manipulation des taux d'intérêt qui a entraîné une accumulation sans fin de crédits et de dettes.
Facilité monétaire, responsabilité banque centrale, endettement, responsabilité des émetteurs, tout. Endettement excessif.
Écoutez, on a manipulé les taux. Après la crise des dot-com, des nouvelles technologies des années 2000-2001, les taux directeurs de la réserve fédérale américaine ont été abaissés à 1%.
On a recensé Alan Greenspan, on est en train de le démolir aujourd'hui totalement.
Exactement. Hein. Et c'est-à-dire un taux réel négatif. Quand on prend en compte l'inflation.
Voilà.
Et
taux réel négatif, ça veut dire qu'on prend le taux d'intérêt directeur, on le défale que de l'inflation, on arrive effectivement avec un moins quelquefois devant.
Ce qui veut dire que des quantités absolument considérables de crédits de très mauvaise qualité ont été émis, des projets non rentables ont été réalisés de manière extrêmement massive, et donc ça a quoi pour conséquence ? Ça a pour conséquence une instabilité systémique du système.
On ne va pas refaire toute l'histoire de la crise, hein, Guillaume Vuillemet, mais effectivement, j'ai compris ce que vous nous disiez. Et alors, je me tourne vers vous, Christian Chavagneux. Les paradis fiscaux n'ont pas fait les subprimes, n'ont pas fait chuter les Lehman Brothers, n'ont pas perverti les agences de notation, n'ont pas créé la titrisation, je ne sais pas, n'ont pas provoqué une crise de confiance entre banquiers. Depuis 4 jours, quelqu'un qui suit la presse comme ça se dit « ça y est, on a trouvé la solution ». Allez-y, excusez-moi Christian.
Les paradis fiscaux n'ont pas provoqué la crise, ils l'ont facilité. Plusieurs exemples. Northern Rock, la première banque qui fait faillite à l'occasion de cette crise.
Anglaise,
banque britannique, qui est nationalisée. Pourquoi elle fait faillite ? Regardez ses comptes à Londres, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un gros endettement ? Il faut aller chercher Granite, qui est une filiale qui est établie à Jersey. Tout l'endettement est concentré là. Bear Stearns, première banque d'affaires qui fait faillite dans cette crise. Vous regardez les comptes de Bear Stearns ? Il n'y a rien du tout. Il faut aller chercher ces fonds spéculatifs qui ont pris des risques énormes et qui vont faire exploser la banque. Où sont ces fonds spéculatifs ? Pour partir aux îles Caïmans.
Mais le fait
Pour partir en Irlande. Hippo Real Estate. Les Allemands se moquent de la finance anglo-saxonne avec toutes ces crises. Chez nous, jamais ça. Hippo Real Estate, première banque allemande qui fait faillite, gros immobilier. Pourquoi ? Fonds spéculatifs en Irlande. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire de manière avérée que les problèmes sont liés à la présence de fonds spéculatifs dans les paradis fiscaux ?
Les problèmes sont liés.
De Bernstein, de Northern Rock, de Hippo Real Estate.
Lafayette.
Hippo Real Estate, parce que c'est allemand, on va pas le dire à l'anglaise. Hein.
Excusez-moi, tout à fait.
Non, c'est moi, surtout là, qu'il est anglicisé et de manière ridicule.
La banque allemande, Bernstein, Northern Rock, ce sont quand même des banques qui ont pu prendre des risques énormes parce qu'ils ont dissimulé ces risques dans des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ont joué un rôle facilitateur. On a parlé d'un système bancaire de l'ombre où ces fameux produits toxiques ont été créés. La Cour des comptes américaine a montré l'an dernier qu'un peu plus du quart de ce système bancaire de l'ombre venait des îles Caïmans. Donc les paradis fiscaux n'ont pas causé la crise, n'ont pas causé les prêts des subprimes, ils n'ont pas causé la titrisation, mais ils ont été des facilitateurs de la crise financière.
Guillaume Vuillemet, sur ce fait, enfin, ces trois exemples, et des gros, hein,
et j'en ai d'autres.
Des gros exemples, qui c'est, voilà, Christian Chavagneux nous dit, c'est le fait d'avoir des fonds, la plupart de leurs fonds, géré de manière spéculative dans les paradis fiscaux, qui a précipité la chute de ces établissements dont il parlait. L'un anglais a contribué, l'un américain et l'autre allemand.
La vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est pourquoi les banques ont pris des risques énormes. Et des risques ont également été pris ailleurs dans le monde, pas seulement dans les paradis fiscaux. Et la vraie raison, c'est que les banques sont déresponsabilisées par un système réglementaire, notamment ce que l'on a appelé le prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que l'on sait que les banques ne feront pas faillite. Donc les banques le savent et agissent en conséquence. Elles savent ce qu'on appelle le too big to fail, trop gros pour faire faillite, trop gros pour échouer.
Lehman Brothers.
Et donc,
c'est une petite banque en fait, Lehman Brothers. C'est 25 000 personnes. C'est pas une si grosse banque que ça, c'est un gros nom, mais plus qu'une grosse banque en termes d'effectifs.
Trop interconnectée, to fail, comme on dit. Pas trop gros, mais le fait qu'elle soit interconnectée avec l'ensemble du système financier qui a créé cette panique totale.
Mais on a quand même un système d'irresponsabilité institutionnalisée avec le rôle de prêteur en dernier ressort de la banque centrale. Et alors qu'après, effectivement, les banques commerciales, les banques de détail dissimulent, ou les banques d'investissement dissimulent des choses dans les paradis fiscaux pour contourner les réglementations, c'est vrai, mais ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur fixe le ratio, appelé ratio de Bâle II, qui est le ratio de capitaux propres par rapport à leur actif total, et elles essayent de le contourner, c'est-à-dire d'aller en dessous pour avoir davantage d'effets de levier, pour émettre davantage de produits qui leur rapporteront de l'argent en période de boom.
Pour prendre plus de risques.
Pour prendre plus de risques. Pourquoi prennent-elles des risques? Parce qu'elles savent avec une quasi-certitude qu'elles seront sauvées par la Banque centrale. Et deuxième chose, parce qu'elles ont un accès quasi illimité au crédit par la Banque centrale qui manipule les taux très régulièrement pour leur donner les liquidités dont elles ont besoin.
On marque une pause. Vous allez m'expliquer, Guillaume, ce que vous mettez derrière le mot manipulation de taux. Parce que vous savez, on dit toujours manipuler les monnaies, et puis on se rend compte que les monnaies, manipuler une monnaie, c'est pas si simple que ça. Peut-être qu'effectivement, les Chinois arrivent à le faire avec leur espèce de taux fourchette, de fourchette fixée au jour le jour. Mais bon, le mot manipulation de taux, effectivement, voilà, les banques centrales savent qu'elles ne peuvent pas faire faillite. Les faits qu'on vient de vivre vous donnent quand même raison là-dessus. Réaction de Christian Chavagneux dans un instant. On dira aussi un mot de Londres. Beaucoup de gens disent que Londres est la première place offshore d'Europe. Sur quels critères on peut considérer que Londres est véritablement une place offshore? Et puis, peut-être que ces paradis fiscaux, ils ont une forme d'utilité aussi, d'une certaine manière. À tout de suite.
Écoutez, si maintenant nous prenons en compte notre cœur de cible,
Marc,
que sont les
il est ancien responsable marketing d'une grande entreprise. Aujourd'hui, il effectue une mission en tant que consultant tout en conservant son statut de salarié. Concentré sur son cœur de métier, il est détendu, efficace, performant et laisse tous les soucis administratifs à son partenaire. Admission, numéro 1 du portage en France. Admission, exercez votre métier. Pour le reste, faites-vous porter. Admission au pluriel.fr.
BFM, la radio de l'écho.
11h27 et les marchés en direct avec David Dobat.
Les marchés rassurent, notamment par le discours de Ben Bernanke qui affirme qu'aucune grande banque américaine ne fera faillite. Résultat, eh bien plus 2,5% pour le CAC, 2773 points. Un CAC boosté, sans aucune surprise donc, par les valeurs bancaires. Dexia, Société Générale, Crédit Agricole, les trois plus fortes hausses du CAC ce matin, plus 11,8% notamment pour Dexia, qui poursuit son rebond et son extrême volatilité sur le titre. On a gagné plus de 60% la semaine dernière sur ce seul titre. 2,07€. Du côté des autres valeurs, on citera notamment EADS, un titre qui s'apprécie de 0,9% à 9,87€ pour EADS. Emirates, la compagnie de Dubaï, accessoirement d'ailleurs plus gros client du nouvel A380 d'Airbus, serait mécontente des premiers appareils qui lui ont été livrés. À des défauts ont en effet été observés, c'est ce qu'affirme Der Spiegel. Airbus d'y prendre l'affaire extrêmement au sérieux. Et puis ArcelorMittal, une partie de la matinée dans le rouge, désormais le titre est quasiment à l'équilibre. Goldman Sachs ramène l'objectif de cours de 26 à 21€ désormais. Je vous rappelle donc le CAC est dans le sillage des places européennes, hein, parce que le DJI Stoxx 50 s'apprécie de 3,3%, le CAC donc plus 2,5%, alors que l'euro a franchi la barre des 1,30$ ce matin, 1,3018, et que le pétrole lui est en repli, 43,02$ le baril de Brent ce matin.
Indice, cours, change, cotation en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM Radio, 34 centimes la minute.
Bientôt 11h30, l'essentiel de l'information avec Maud Aigrat.
Joseph Ritzel plaide coupable de viol, séquestration et inceste, mais pas de meurtre ni d'esclavage. Son procès s'est ouvert ce matin en Autriche. Il est accusé d'avoir séquestré et violé sa fille pendant 24 ans. 7 enfants sont nés de cette relation incestueuse. L'un d'entre eux est décédé faute de soins. Le verdict est attendu vendredi. Joseph Ritzel risque la prison à perpétuité. Rachida Dati présente aujourd'hui le futur code pénal des mineurs, un code qui devrait consacrer le principe d'une réponse systématique à tout acte délictueux ou criminel commis par un mineur. En revanche, l'âge minimum d'incarcération ne devrait pas être abaissé de 13 à 12 ans. Une pyramide de matelas à Paris, l'association Emmaüs a empilé une centaine de matelas place de la République pour demander un moratoire des expulsions locatives. La trêve hivernale a pris fin ce matin. En Israël, Benjamin Netanyahou avance dans la constitution de son gouvernement. Un accord de coalition a été conclu la nuit dernière avec la formation d'extrême droite d'Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman qui devrait être désigné ministre des Affaires étrangères. Par ailleurs, deux policiers israéliens ont été tués par balle près d'une colonie en Cisjordanie. La fin d'une longue crise politique au Pakistan. Sous la pression de la rue, le gouvernement restitue dans ses fonctions l'ancien président de la Cour suprême. Le principal dirigeant de l'opposition a aussitôt appelé ses partisans à cesser leur mouvement. Trois employés étrangers de l'ONU enlevés par des hommes armés en Somalie, parmi eux deux occidentaux. Leur nationalité n'a pas été précisée. Ils travaillent pour le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement. Et puis Lyon, Marseille et Paris dans un mouchoir de poche. Fin de la 28e journée de la Ligue 1. Hier, l'OM s'est imposé face au PSG. Du coup, au classement, Marseille est à un point seulement du leader Lyon.
BFM 11h30. On passe à l'économie, Maud Aigrat.
Et on commence avec le sauvetage d'AIG qui n'en finit pas de faire des vagues outre-Atlantique. L'assureur américain a révélé hier que l'argent qu'il avait reçu du contribuable américain lui avait surtout permis de dédommager des banques européennes qui s'étaient assurées auprès de lui. La Société Générale et la Deutsche Bank ont notamment reçu près de 12 milliards de dollars chacune. BNP Paribas et Calion, la banque d'affaires du Crédit Agricole, en ont également bénéficié. Et puis autre polémique autour des bonus qui seront versés cette année par AIG. 450 millions de dollars de primes qui, selon le Wall Street Journal, vont être versés à ceux qui sont considérés comme étant à l'origine des pertes historiques du groupe. En France, les crédits à la consommation seront mieux encadrés. Un avant-projet de loi est dévoilé aujourd'hui par Bercy. Le texte prévoit notamment que les consommateurs ayant souscrit un crédit disposent de 14 jours et non plus 7 pour se rétracter. Les établissements de crédit devront s'assurer que leurs clients ne sont pas déjà écrasés par les dettes. Plus de 450 000 personnes ont perdu leur emploi au quatrième trimestre dans la zone euro, quasiment 700 000 dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. C'est le deuxième trimestre consécutif de baisse de l'emploi. Et à ce propos, justement, en France, les entreprises de travail temporaire frappent à la porte du gouvernement et de Pôle emploi pour participer massivement à l'accompagnement des chômeurs et des salariés licenciés économiques. Adecco, Manpower ou encore Vedior estiment avoir un rôle important à jouer dans le contexte actuel. Le gouvernement devrait leur donner en partie satisfaction, Nicolas Lagrange.
Les leaders français du travail temporaire accusent actuellement une forte baisse de leur activité de placement des intérimaires, le gros de leur chiffre d'affaires. Manpower exclut tout plan social. Adecco, de son côté, réduit de 7% ses effectifs. Le numéro 1 français assure mettre à profit la période pour former les salariés intérimaires et pour faire de la prospection d'offres d'emploi. Il espère, comme ses concurrents, être largement sollicité par Pôle emploi. Un appel d'offres va être lancé à la fin du mois auprès d'opérateurs privés pour accompagner entre 100 et 120 000 demandeurs d'emploi. Les entreprises de travail temporaire espèrent prendre en charge au moins 50 000 d'entre eux, ce qui allégerait la charge de travail de Pôle emploi, a estimé le gouvernement. Mettant en avant leur savoir-faire en termes d'accompagnement, Ils ont déjà été mandatés par l'UNEDIC. Les groupes de travail temporaire estiment pouvoir faire beaucoup plus, surtout à un moment où leur charge de travail est en forte baisse.
Airbus s'engage à régler les problèmes des A380 d'Emirates. La compagnie de Dubaï en a commandé 58, elle en a reçu 4. La presse allemande a révélé ce week-end qu'elle s'était plaint auprès d'Airbus. Câbles électriques brûlés, tôles d'habillage arrachées, problèmes affectant certains éléments des moteurs, des défauts qui auraient obligé Emirates à annuler des vols. Emirates qui pourrait par ailleurs retarder la livraison de plusieurs appareils. Vous écoutez BFM, il est 11h33.
Un journal de l'économie toutes les demi-heures, uniquement sur BFM Radio.
Et c'est la dernière demi-heure des grands débats.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Réaction d'auditeurs sur le secret bancaire. Philippe est à Bruxelles. La meilleure façon de supprimer les paradis fiscaux, enfin le secret bancaire et les paradis fiscaux, réside dans la capacité des États occidentaux, écrit-il, à mettre en place une fiscalité plus attrayante. Trop d'impôts tuent l'impôt. Et il ajoute pourquoi nos entreprises occidentaux, nos dirigeants occidentaux n'acceptent-ils pas la concurrence économique aussi entre les États? Il l'accepte entre les entreprises, pourquoi pas entre les États. Et puis il y a Gilles à Paris qui écrit « S'il existe des pays qualifiés de paradis fiscaux, c'est bien qu'il existe en face également des enfers fiscaux ». C'est un grand classique celui-là d'opposer paradis et enfer. Je vous rappelle donc après le Liechtenstein, Andorre et la Belgique, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg ont cédé, en tout cas en partie, à leur tour sur le secret bancaire. Puis vendredi soir, Monaco s'est dit prêt à suivre le mouvement général de transparence, là je cite, en coopérant davantage contre l'évasion fiscale, ces pays, voilà, semblent disposés à se ranger derrière les normes mises en place par l'OCDE en matière d'entraide administrative. Il s'agit donc à la fois d'entraide en cas de procédure pénale, mais également en cas d'enquête administrative, et qu'il s'agisse de fraude ou qu'il s'agisse d'évasion fiscale. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint à Alternatives économiques, est avec nous. Il est auteur des Paradis fiscaux aux éditions La Découverte, et il a piloté donc cette étude publiée par Alternatives économiques en ligne sur la présence exacte et très précise des entreprises des CAC 40, à la fois le nombre de filiales offshore qu'elles détiennent et les États dans lesquels ces filiales sont implantées. Et Guillaume Vuillemet est avec nous, chercheur à l'Institut économique Molinari. Donc, on le disait, Christian Chavagneux, juste avant la pause, peut-être des facilitateurs, en tout cas pas à l'origine de la crise financière que nous vivons. Il faut avoir au moins la franchise de le reconnaître. Pourtant, depuis quelques jours, le climat général, et vous savez que c'est l'idée qui reste dans la tête des gens qui est importante, le climat général laisse à penser que cette guerre contre les paradis fiscaux, c'est la mère des batailles pour régler la crise financière. Et que si on y arrive, on aura gagné quelque chose, une bataille absolument incroyable. Et là, il y a peut-être une forme de désinformation.
Les grands pays industrialisés et les quelques pays émergents semblent prêts à faire trois choses pour réguler la finance internationale. D'une part, revenir sur la façon dont les grandes banques internationales prennent des risques. Et là, les mesures techniques, elles sont en train d'être mises sur le tapis. D'autre part, réduire un petit peu le terrain de jeu en encadrant plus sévèrement les produits financiers sophistiqués qu'on appelle les produits dérivés. Et si on fait ces deux choses-là et qu'on laisse les acteurs financiers jouer et continuer à prendre des risques dans les paradis fiscaux, les deux premières n'ont servi à rien. Donc les ministres des Finances et leurs conseillers disent si on commence vraiment à être sérieux sur les deux premiers piliers, il faut aussi qu'on soit sérieux sur le troisième. Mais le changement de phase de la finance internationale éventuelle, c'est les trois piliers ensemble.
D'accord, mais pour l'instant, on est en train d'en ériger un comme épouvantail parce que c'est difficile d'expliquer au grand public qu'on va s'attaquer aux produits dérivés. Ah, c'est quoi un produit dérivé? Certains n'arrivent toujours pas. Alors que la Suisse, alors on sait, sur une carte, ça se voit.
Non mais tout à fait, les deux autres sujets sont éminemment techniques, les paradis fiscaux c'est plus politique et c'est plus vendeur politiquement, néanmoins c'est aussi économiquement quelque chose de très important. Les grands états s'aperçoivent que les pertes de recettes fiscales sont énormes, le conseil des prélèvements obligatoires a dit au moins 40 à 50 milliards d'euros pour la France, 10% des recettes fiscales, 3% du PIB, c'est énorme. Et par ailleurs, j'ai donné plein d'exemples tout à l'heure pour montrer que ces paradis fiscaux participaient à l'instabilité financière. Dans un climat où on veut récupérer de l'argent, les états veulent récupérer de l'argent et où veulent maîtriser l'instabilité financière, il faut s'attaquer aussi aux paradis fiscaux, même si vous avez raison, cela ne suffira pas.
Voilà, alors là, effectivement, le message est beaucoup, beaucoup plus précis, tel que vous le dites là, Christian Chavagneux, mais prenez la presse depuis trois jours, vous allez voir. Votre réaction, Guillaume Vuillemet, sur le côté épouvantail de ces paradis fiscaux qui donne le sentiment que tout est là, que tout sera réglé une fois que cette situation aura été clarifiée. On vient de comprendre avec Christian effectivement que c'est plus compliqué.
C'est vrai que les paradis fiscaux, c'est le bouc émissaire idéal des grands États, et ceci je crois pour deux raisons. La première raison, elle est purement politique ou politicienne, c'est qu'il est populaire de taper sur les paradis fiscaux avec l'ensemble de représentations qu'il y a autour, à savoir l'opacité, etc. Et puis, l'argent qu'ils accumulent, etc. Donc je crois qu'il y a un facteur purement politique. Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est que les grands États les plus taxés sont toujours prompts à vouloir que les États les moins taxés ne leur fassent plus tellement concurrence. Un de vos auditeurs parlait de concurrence fiscale, je crois qu'il a tout à fait raison.
Concurrence entre États,
oui. Un des grands mérites des paradis fiscaux, c'est qu'ils permettent une certaine concurrence fiscale, et je crois qu'en période de crise, c'est d'autant plus nécessaire, puisqu'on voit les dépenses publiques qui augmentent de manière colossale, préalable probablement à une hausse aussi importante des impôts ou pas, peut-être de l'inflation par endroit.
Oui, et ce sera inflation ou impôt, il faudra une solution.
Ce sera certainement inflation ou impôt dans l'esprit des hommes politiques.
Ou croissance.
Mais étant donné les politiques publiques qui sont mises aujourd'hui en place, je penche plutôt
pour la croissance.
J'aimerais votre avis quand même, Guillaume Vuillemet, sur ce que disait Christian Chavagneux. Il y a trois jambes à ce qui pourrait se passer à Londres. Hein, l'encadrement des risques des banques,
les produits financiers,
la titrisation. Mais si on joue sur ces deux jambes-là et qu'on laisse les paradis fiscaux non encadrés, ça ne sert à rien.
Écoutez, moi, je partage pas l'analyse des causes de la crise financière de Monsieur Chavagneux, donc je pense pas que je ne partagerai ces solutions. À mon sens, le vrai problème, je vous l'ai dit, vient de la politique monétaire mise en place par les États et du fait que quelques personnes qui s'appellent les banquiers centraux peuvent fixer les taux directeurs de manière discrétionnaire et donc jouer sur les quantités colossales de liquidités qui sont mises en place et qui crée des bulles. Je pense que le fait de pouvoir manipuler ce taux directeur...
Alors, le mot manipulation, quand Ben Bernanke, à la suite de son conseil des gouverneurs, prend une décision de politique monétaire, vous considérez que la décision qu'il prend, elle est publique?
Oui.
Il dit, on est quasi à zéro, là, mais... Où est-ce qu'il y a manipulation ?
Le taux d'intérêt, c'est quand même un prix. C'est le prix de l'argent, si vous voulez. Et là, c'est un prix public. Donc, c'est comme si demain, l'État fixait le prix du pain, il y aurait des déséquilibres qui se créeraient sur le prix du pain. Eh bien, là, c'est pareil, si vous voulez. En mettant un prix trop bas, la monnaie est beaucoup plus demandée, et donc, les banques peuvent prêter beaucoup plus facilement. Et donc, prêter pour des projets qui n'ont pas de rentabilité intrinsèque, mais qui ne sont rentables que parce que le taux a été abaissé. Et donc, c'est ça qui crée des bulles. En baissant massivement les taux, on donne aux gens l'illusion qu'il est facile d'emprunter et facile d'investir, et on crée des bulles.
C'est ce qui se passe effectivement dans les années Greenspan, post-bulle télécom. Mais là, en l'occurrence, on manipule pas le taux, on décide de le baisser outrageusement.
Pour moi, j'assimile fixation publique du taux à une manipulation.
Alors, vous n'étiez pas tellement d'accord avec cette analyse, Christian Chavagneux.
Je ne comprends pas comment, quand on a des taux bas, ça devient plus rentable. Rentable, c'est des taux plutôt élevés.
Enfin,
plus intéressant d'emprunter. Si vous voulez, davantage d'investissements sont rentables.
S'il s'agit de dire que les banques centrales, notamment la Greenspan, en abaissant fortement les taux d'intérêt jusqu'en 2004, depuis 2004 jusqu'à 2007, les taux montaient. Même à vitesse vertigineuse. Donc depuis 2004, notre argument, il est un petit peu sur une jambe et demie, plutôt que sur deux jambes.
La masse monétaire a doublé depuis 2000 quand même. Entre 2000 et 2007, la masse monétaire a doublé.
Sans que la richesse réelle ne double. Les années 60, des taux nominaux très bas, beaucoup plus d'inflation qu'aujourd'hui. De l'inflation, donc des taux réels encore plus négatifs qu'aujourd'hui, et pourtant pas de bulle. Pourquoi pas de bulle à l'époque? Parce que tout cet argent disponible, il ne va pas utiliser des innovations financières qui vont permettre de prendre énormément de risques, ce qu'on a fait aujourd'hui.
Oui, sur le doublement de la masse monétaire, vous êtes d'accord avec ce... Je vous avouerai que j'ai pas en tête le ratio exact.
Doublement de la masse monétaire, et l'inflation est où?
Les produits financiers,
sur l'inflation d'actifs qui est
sur les immobiliers et sur les produits financiers.
Rendu possible, d'autant plus qu'il y a des innovations financières mal contrôlées. Alan Greenspan, certes, baisse trop et trop longtemps les taux d'intérêt, mais aussi, il voit monter des bulles immobilières, il voit monter des bulles financières et dit, mais moi, en tant que banquier central, il a le hands-off policy que réclame monsieur. Moi, je mets pas la main dessus, je laisse monter les bulles. D'accord? Et c'est cette absence de réglementation financière qui va jusqu'à la bulle.
Guillaume Vuillemet.
Jusqu'à la crise.
Vous dites, où est l'inflation? Mais l'inflation, elle est exactement à l'endroit où se dirige la monnaie créée de manière artificielle. Et en l'occurrence, elle s'est dirigée vers deux endroits, vers les marchés immobiliers notamment, vers les prêts à la consommation, et vers le secteur financier et tous ces hedge funds qui ont pu emprunter de manière colossale pour faire des opérations avec un effet de levier énorme. Et donc l'inflation qu'on n'a pas vue tellement sur les biens réels, on l'a vue dans l'immobilier et on l'a vue dans le secteur financier.
Donc il faut les contrôler, il faut les empêcher de prendre des risques avec cet argent disponible.
Donc il faut manipuler les taux d'intérêt qui sont à l'origine de ces bulles.
Les banquiers centraux existent depuis plusieurs siècles. Le choix démocratique de l'ensemble des grands pays industrialisés, c'est d'avoir des banques centrales, c'est de considérer que la monnaie est un bien public, qui c'est pas du tout le prix du pain, le prix de la monnaie. C'est un bien public qui doit être géré par les pouvoirs publics. Alors, conçois que vous ne soyez pas d'accord avec ça, mais nos principes démocratiques sont ceux-là. On confie à une banque centrale la gestion de la monnaie et on a une imposition qu'en gros on comprise entre 45 et 50% du PIB. Les choix démocratiques de la France sont ceux-là.
Alors j'ai une question, mais je ne vous la pose pas maintenant, Christian Chavagneux, parce qu'on n'a pas le temps d'y répondre. Par contre, celle-ci, à mon avis, la réponse peut être assez resserrée. Enfin, on aura le temps, mais dans un instant. Londres. En quoi Londres est l'une des premières places offshore d'Europe? À Londres, il n'y a pas de secret bancaire à ma connaissance, et puis il y a une fiscalité britannique.
Bien sûr, il y a une fiscalité britannique, mais on est toujours un paradis fiscal pour les autres, jamais pour ses propres résidents. Hein. C'est le principe même du paradis fiscal. Vous voulez créer une société écran aujourd'hui à Londres, hein, pour essayer de cacher un petit peu soit vos revenus, soit vos salaires, soit vos profits, ça coûte à peu près entre 200 et 250 euros
c'est
aujourd'hui.
C'est ce que vous racontez.
Vous êtes un milliardaire, vous voulez avoir des bonnes conditions fiscales, vous pouvez aller à Londres. Vous êtes un hedge fund, vous voulez vous enregistrer, vous pouvez aller à Londres. Avec peu de transparence, vous pouvez aller à Londres, etc. Il y a même le grand patron de la FSC, qui est l'autorité de surveillance des marchés financiers à Londres, qui a dit...
L'AMF anglaise.
Hein. Ouais, exactement. Vous voulez cacher une aiguille, c'est pas dans une meule de foin qu'il faut la cacher, c'est dans une meule d'aiguille. Londres, c'est la plus grande meule d'aiguille. Hein, donc même pour l'argent, et même les gens de la FSA se plaignent toujours que les mafieux sont trop présents à Londres. Donc vous avez l'argent de la mafia, vous avez l'argent des risques financiers, vous avez, si vous êtes un milliardaire ou une entreprise, vous pouvez cacher une partie de vos profits ou de vos revenus. Vous êtes, Londres offre exactement les mêmes types de services financiers hein, que la Suisse ou le Luxembourg. N'offre pas que ça, et c'est pour ça que les grandes multinationales y sont présentes, pas uniquement pour aller faire des transactions douteuses, mais aussi pour ça.
Et accueillera le G20 le 2 avril.
Et accueillera
comme
le G20.
Quoi, hein, le monde est bien fait. À tout de suite.
BFM Radio, tout savoir avant d'aller travailler. 6h-10h, Good Morning Business avec Stéphane Soulier. Le bilan de la séance à Wall Street, la clôture en Asie, l'ouverture des bourses européennes, Good Morning Business, le checkpoint de la matinée. Interview, analyse, édito, Good Morning Business vous donne l'opinion du monde des affaires. 6h-10h, Good Morning Business avec Stéphane Soulier. Écoutez vibrer la planète écho sur BFM Radio.
La liberté pour les entreprises.
Oui, je suis ici en direct au milieu d'entreprises de toute taille, des PME, des grands groupes, des indépendants, des créateurs.
On a trouvé.
Mais que se passe-t-il?
Mais oui, on a trouvé.
Mais oui, c'est ça. Nous sommes devant un bureau club.
Eh oui, la liberté, c'est bureau club. Centre d'affaires avec solutions sur mesure et immédiates, de location de bureaux, domiciliation, salle de réunion, partout en France, pour une heure, un jour, un an ou plus. Bureau club, bureau.com.
BFM, la radio de l'écho.
Il est 11h45, les marchés en direct avec David Doba.
La bourse de Paris qui reste toujours aussi bien orientée, hein, puisque le CAC 40 s'apprécie de 2,6%. 2776 points avec des titres en belle hausse. Aujourd'hui, c'est le cas sur le SRD d'Altran qui s'envole de 10,5% à 2,10€ pour Altran. Les investisseurs saluent la bonne progression en 2008 de la rentabilité du groupe et ce, malgré la publication d'un résultat net quelque peu décevant. Holot Group également bien orienté, plus 12%. Aujourd'hui, 8,3% de hausse, c'était pour vendredi. Le titre profite donc encore hein, aujourd'hui du relèvement de recommandations de plusieurs brokers. 3,08. Société Générale, évidemment les banquiers et notamment Société Générale avec IG, plus 8,6%, 25,39€ et Wendel, plus 8,7%, 19,38€. Coup d'œil sur le titre qui évolue contre la tendance avec ses chez Environnement qui lâche un petit peu plus de 4%, 39,05€. Fimala qui moins 3,8%, 23,09€. Et puis on trouve également du côté des replis toujours Thomson qui dévise de 2,4% à 40 centimes d'euros. Voilà, je rappelle le CAC qui est donc à Paris plus 2,7%. L'euro face au dollar au-delà des 1,30, 1,3037 et le baril de Brent qui continue de se replier. On est même passé sous les $43 actuellement à Londres, 42,76.
Un point bourse tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
11h46 sur BFM, vous retrouvez le tout dernier quart d'heure des grands débats.
Les grands débats. Nicolas Dose sur BFM.
Guillaume Vuillemet, chercheur à l'Institut économique Molinari. Vous venez de faire un heureux, cet auditeur de Bruxelles qui s'appelle Didier. Alors Didier, il faut savoir qu'il m'envoie des mails tous les jours. Je ne les lis pas tous les jours à l'antenne parce que souvent, dans ses mails, il a des dadas quand même, il faut reconnaître. Et notamment, il dit voilà, enfin, il y en a qui commencent à entrevoir où se trouve la mafia de la crise. Pour lui, ce sont les banques centrales. Et je vais même aller au bout donc de ce que Didier écrit généralement. Je ne sais d'ailleurs pas si vous avez un avis là-dessus, mais lui, il dit la Fed est non constitutionnelle et non démocratique. C'est une banque privée. Voilà. Vous voyez, Guillaume, je ne sais pas si ça vous, ça vous laisse pantois.
Je crois qu'à l'origine, même si je ne suis pas certain, la Fed a effectivement un statut plus ou moins privé, mais en situation de monopole, ce qui en fait une banque quasi publique.
Votre avis là-dessus, aucun avis, Christian Chavagneux. Bref, on referme la parenthèse, mais il est très heureux. Là, il envoie un mail quasi jubilatoire, puisque ça y est. Il dit enfin, On touche le cœur du problème.
Quelle est l'alternative?
L'alternative à quoi?
Si on n'a pas de banque centrale, c'est la concurrence des monnaies. Donc la monnaie Société Générale fait concurrence à la monnaie BNP Paribas, la meilleure s'impose et elle devient le grand régulateur financier.
C'est Christian Chavagneux que vous écoutez parce que je ne l'ai pas représenté.
Déjà, je crois qu'il y aurait peut-être deux solutions envisageables. La première, c'est-à-dire avoir un taux, ce qu'on appelle un taux directeur, qui ne soit plus changé au gré de quelques décisions politiques tous les mois ou tous les 3 mois.
Indépendante, non? Du pouvoir politique, non?
Non, du pouvoir politique, mais elles prennent quand même des décisions de manipulation, ce que j'appelle manipulation.
Au service de qui,
alors? À savoir fixer les taux.
Au service de qui?
Aux
intérêts de qui?
Peu importe, même s'il n'y a pas d'intérêt, leur intérêt...
C'est important la question quand même de Christian Chavagneux.
Peu importe, mais je ne parle pas en termes d'intérêt, je parle en termes d'effet économique de fixer les taux. Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir un taux d'intérêt qui varie, qui soit à 5% une année, à 2% l'année d'après, et qui soit augmenté et baissé tous les mois, ou tous les 3 mois? Peu importe. Je ne pense pas.
Ça me semble être une des grandes armes d'une politique. On a le budget, généralement, on a le commerce et on a la monnaie.
Justement, je pense que c'est intrinsèquement cyclique, c'est-à-dire que ça crée les cycles de boom et de crack.
Bon, en tout cas, vous faites partie, oui, allez-y, excusez-moi.
Je pense que pendant une période, si vous voulez, le taux d'intérêt, comme je l'ai dit, trop bas, entraîne un afflux de liquidités, un afflux d'investissements non rentables, et donc une bulle qui après éclate. Et donc, plutôt que le capitalisme, je pense que c'est la politique monétaire qui est intrinsèquement cyclique.
Alors, en tout cas, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de décisions au G20 sur la politique monétaire intrinsèquement cyclique. Et je vais revenir quand même sur ces paradis fiscaux et ce secret bancaire, Christian Chavagneux. Vous nous disiez, il va falloir encadrer les prises de risque, il va falloir trouver quand même des solutions pour éviter que la mathématique financière soit inventive au point effectivement de disséminer tous les risques, et lorsque plus personne ne les assume, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, il faudra s'occuper des paradis fiscaux. Et pourtant, en début d'émission, vous nous disiez l'histoire là du Liechtenstein, Andorre, Belgique, Suisse, Autriche, c'est une brèche, une petite brèche, et vous êtes en train de dire que finalement ce troisième point là on va pas y arriver.
Ce sera difficile. En tout cas, ce sera intéressant de voir combien, jusqu'où les Américains, notamment, se contentent de ces petites brèches. Est-ce qu'ils disent, OK, ils ont fait des efforts, on s'arrête là? Ou bien est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Pour l'instant, le fisc américain veut aller beaucoup plus loin. Il dit à la Suisse, donnez-moi les noms des 52 000 Américains
UBS
qui ont ouvert des comptes dans la banque UBS et donnez-les-moi. La Suisse dit non, on ne peut pas. Et surtout, les Suisses, c'était rigolo de voir le président suisse et le ministre des Finances dire, mais vous n'avez pas le droit de faire de la pression politique comme ça sur la Suisse. C'est pas juste de faire de la pression politique sur la Suisse.
Vous avez vu que le Premier ministre tchèque compare le secret bancaire à un secret confessionnel. Il est à la tête de l'Union européenne actuellement. Enfin, tout ça est quand même hyper compliqué. Je ne sais pas quel est le système tchèque, d'ailleurs, s'il y a un secret bancaire en République tchèque.
Tout à fait, mais le consensus politique a basculé. Aujourd'hui, les États les plus puissants semblent vouloir s'attaquer aux paradis fiscaux et on verra jusqu'où ils iront lors du G20 du 2 avril.
Bon, à votre avis, le G20 du 2 avril, Guillaume Vuillemet, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous redoutez? Puisque j'ai l'impression que sur les banques centrales, c'est le FMI qui va être l'acteur vedette. Et les paradis fiscaux qui vont être à l'ordre du jour.
On va parler beaucoup des paradis fiscaux. Des décisions seront peut-être prises sans que, à mon avis, ça ne change quoi que ce soit, ni aux prochaines crises, ni aux solutions de la crise. Comme on l'a dit, c'est un bouc émissaire facile qui est mis en avant. Je pense pas que le G20 débouche sur des solutions vraiment innovantes.
Allez-y, Christian Chavagneux.
Je crois qu'on va avancer sur les trois. On ne parle pas des deux autres. Vous avez raison, c'est très technique, ça embête les gens. Mais on avance sur les trois. Les discours techniques, les Sherpas.
C'est peut-être temps quand même de pas laisser croire qu'avec les paradis fiscaux on réglera tous les problèmes.
Régler, hein. Voilà. On avance sur les trois piliers.
L'histoire, enfin tous ces gens qui réagissent en disant s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Peut-être que il est temps pour certains pays de penser à réformer leur fiscalité. C'est notamment l'avis de Pierre Meignery, c'est l'avis de Jean Arthuis. Hein. Il parle beaucoup de réforme de fiscalité. Pas dans le sens des paradis fiscaux, mais on est en train de se poser des questions sur la fiscalité.
En même temps, Jean Arthuis est le premier à s'être levé après l'affaire du Liechtenstein pour dire qu'il fallait fermer les paradis fiscaux. Donc c'est pas irréconciliable.
Non, mais voilà, alors, est-ce qu'il faut réformer? Quel est votre avis là-dessus, Guillaume Vuillemet? On parlait de la concurrence fiscale entre les États.
Je pense que la meilleure arme contre la fuite des capitaux à l'étranger, c'est évidemment la réforme fiscale et la baisse des prélèvements obligatoires chez nous.
Pourtant, ils ne sont pas tellement.
Il n'y a pas de.
L'impôt sur le revenu n'est pas élevé en France, hein?
Non, mais il y a une somme d'impôts qui fait que la France est globalement un des pays les plus taxés de l'OCDE, si on raisonne en termes globaux.
Et pourtant, il n'y a pas de fuite fiscale des Français à l'étranger.
Effectivement, on a l'exemple de l'ISF qui fait partir chaque année un certain nombre de gros contribuables, qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Donc on a quand même un certain nombre une masse de prélèvements obligatoires qui viennent s'ajouter pour au final faire effectivement, peut-être pas un enfer fiscal, mais en tout cas un environnement pas très facile.
Je crois pas que l'ISF véritablement coûte plus cher qu'il ne rapporte, mais il ne rapporte pas, c'est vrai, énormément. Oui, sur l'ISF, puisque ça fait aussi partie de ce qui trotte dans la tête de Pierre Méhaignery.
Il y a deux Français, on nous dit, par jour qui quittent la France à cause de l'ISF. Il y en a 2000 qui restent. Deux qui partent, 2000 qui restent. Ça renvoie à des stratégies individuelles.
Oui, c'est comme, vous savez, Christine Lagarde qui nous dit, regardez, en 2009, on fera 98,5% de la performance de 2008. Une façon de voir la récession avec un œil positif, hein, pourquoi pas. L'amnistie fiscale, l'idée de Bernard Accoyer, on fait une amnistie fiscale pour les gens qui rapatrient leurs capitaux et en échange on leur demande d'abonder dans une sorte d'emprunt d'État parce qu'on a besoin de recettes.
Non, d'une part c'est un scandale moral et en plus aujourd'hui si vous proposez un emprunt aux gens, vous proposez d'augmenter leur épargne. Au moment où il n'y a plus de demande, si vous accroissez l'épargne, c'est la dépression totale.
Le G20, vous attendez à une... On a l'impression que tous les médias vont y aller, même BFM sera sur place. On se dit, tiens, peut-être que là va émerger la nouvelle doctrine financière mondiale. Et puis plus il approche, plus on en doute.
Non,
je sais pas ce que va dire Barack Obama et tout dépend de Barack Obama.
Si vous suivez la presse américaine et les débats au sein de l'équipe Obama, on a très très bien l'impression, Obama l'a encore rappelé à la fin de la semaine dernière, il va intervenir pour réguler fortement la finance. C'est peut-être un G20 historique. Ça s'appelle pas Bretton Woods, mais ce sera peut-être un G20 historique.
Ouais, le mot de la fin, Guillaume Vimet.
Écoutez, c'est un moment important qui aura effectivement un impact économique important. Ceci dit, je doute que les sujets majeurs soient tous abordés, majeurs à mon sens, et puis que ça ait effectivement un impact colossal sur la résolution de la crise.
Ouais, majeurs, donc les banques centrales notamment.
Tout à fait.
Bon, merci d'avoir été là, Christian Chavagneux, les paradis fiscaux aux éditions La Découverte, et puis à l'origine de cette étude choc d'alternatives économiques sur la réalité du CAC 40 offshore, réalité transparente hein, finalement, donc vous voyez bien que peut-être déconnecter notre cerveau du mot offshore égale escroc, ou en tout cas égale illégalité, tout ça est plus subtil, plus compliqué. Merci Guillaume Vimet d'avoir été là, chercheur à l'Institut économique Molinari.